Fréquence.
Recherche.
Reçoit le signal.
Des chercheurs.
L'émission qui questionne la place de la recherche dans notre société.
Un jeudi sur 4 à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Recherche, l'émission qui décrypte la recherche et qui fait entrer en résonance chercheurs et sociétés. On se retrouve un jeudi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris 93.9 ou bien en podcast sur le site web de la radio et sur toutes les plateformes. Toute cette année, Fréquence Recherche invite des chercheurs et des chercheuses pour qu'ils et elles nous racontent leur métier de l'intérieur, leur quotidien et les enjeux auxquels ils font face. Financement, organisation, valorisation, prise de décision, au-delà du domaine des institutions ou de la communauté, ce sont ces réalités que partagent les acteurs de l'académique en France que nous souhaitons explorer avec nos invités chercheurs. Aujourd'hui, on ouvre un volet qui dépasse très largement les frontières de la recherche pour s'étendre jusqu'à celle de la polis, en grec, la cité, j'ai nommé la politique. Les instances académiques ne sont pas hors sol, elles s'inscrivent dans la société qui les entoure. Elles en dépendent, elles l'étudient, elles la façonnent. Et oui, dans recherche et politique, résonnent tout à la fois la politique et la recherche sur la politique qui écoute ou pas les chercheurs, et les institutions académiques qui accompagnent la prise de décision politique. Finalement, nous allons nous demander aujourd'hui que peuvent et que doivent le chercheur. Qu'en est-il de la position de l'expert lorsque les enjeux du pouvoir viennent le rattraper et le confronter à son rôle de citoyen? Et pour discuter de ce sujet passionnant, Fréquence Recherche a l'immense honneur de recevoir Laurence Tubiana, économiste, directrice de recherche et enseignante à Sciences Po, Columbia et en ce moment aussi à l'École Normale Supérieure. Mais bien sûr, Madame Tubiana, on vous connaît surtout pour votre rôle d'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique par le gouvernement français lors de la COP21. Et donc, vous êtes une des architectes des accords de Paris. Vous êtes aussi aujourd'hui directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Bonjour Madame Tubiana, merci d'avoir accepté votre invitation.
Bonjour.
Et pour discuter avec vous, Antoine Tubio, doctorant en géographie à l'Université de Genève, auteur du livre « Écofascisme ». Antoine, vous vous intéressez aux liens entre rural et urbain dans les discours et les pratiques écologistes. Bonjour Antoine Tubio.
Bonjour.
Alors pour commencer, comme toujours, j'aimerais vous poser une première question qui va vous permettre un peu plus de vous présenter. Alors comment se fait-il qu'un jour où vous êtes sorti du laboratoire de recherche pour vous intéresser à la question politique?
Moi je me souviens, j'étais à l'Institut National de la Recherche Agronomique comme chercheur. Je travaillais sur les relations internationales dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Et j'étais témoin d'une grande aveuglement en fait de la recherche par rapport au rapport de force qui s'exerçait sur ce domaine. Notamment les paysans d'un certain nombre de pays en développement, en Afrique en particulier, qui subissaient très fortement la dévalorisation de leurs marchandises parce qu'il y avait de l'aide alimentaire européenne qui arrivait sur leur marché à presque pas de coût. Et puis, ils étaient impuissants par rapport à ça. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'avait beaucoup frappée. Les agriculteurs du sud du Brésil, produisant du soja ou d'autres matières premières agricoles, et qui négociaient très mal leur prix par rapport aux grands traders internationaux. Et ça m'a paru difficile de rester, d'analyser ces trends, les prix sur les marchés internationaux, puisque je suis économiste. Et en même temps, sans me dire, il y a quand même une grande asymétrie de pouvoir auquel je ne peux pas rester indifférente. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision avec quelques collègues de créer une ONG qui s'est appelée, elle a disparu maintenant, Solagral, ce qui voulait dire solidarité agricole et alimentaire, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer la politique publique, dans ce cas-là, l'aide alimentaire européenne. Et je dois dire, ça a été un des premiers succès. On a obtenu la réforme de cette aide pour que l'aide européenne ne vienne pas concurrencer les produits des agriculteurs africains dans l'Afrique, dans toute l'Afrique. Et puis, on a créé un système d'information pour que les agriculteurs qui produisaient du soja connaissent les prix sur les marchés internationaux et ne se fassent pas rouler, si je dis ça de façon un peu familière, par les grandes entreprises qui leur achetaient leurs marchandises. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit que ce n'était pas possible de rester juste dans le secteur de l'analyse et qu'il fallait que j'agisse, en tout cas, de façon avec d'autres.
Merci. Rentrer dans le débat, vraiment impressionnante et vraiment très intéressante. J'ai déjà beaucoup de questions, mais d'abord, on va laisser peut-être Antoine Duvieux répondre à la question. Donc, alors, comment est-ce qu'on se retrouve à s'intéresser à la question politique quand on est jeune chercheur ?
Moi, dans mon cas, je pense que c'est le parcours inverse qui s'est fait. C'est-à-dire que j'avais plutôt un engagement politique c'est via cet engagement que je me suis dit qu'en fait, la voie de la recherche était intéressante pour moi. J'étais intéressé au départ plutôt par les questions énergétiques. J'ai un début de parcours plutôt dans l'ingénierie et donc un parcours assez technique sur les questions énergétiques. Puis en fait, je me suis intéressé via mon engagement politique écologiste, en fait, aux politiques énergétiques. Et c'est comme ça que je me suis réorienté en fait vers les sciences sociales et que j'ai fait un peu différentes disciplines, plutôt de la géographie, on va dire que c'est un peu le cœur de ce que j'ai fait. Donc c'est plutôt dans le sens inverse. Et donc à mon sens, entrer dans une carrière scientifique, bon, pour l'instant assez modeste, ça fait à peine 2 ans que je suis en thèse, mais c'est participer à une forme de production collective de savoir que je trouve en fait vraiment plus intéressante que d'autres manières de produire des savoirs. Donc, je pense qu'il y a une dimension très politique dans le fait d'avoir choisi la recherche comme carrière. Je pense qu'en fait, c'est un parcours que pas mal de jeunes chercheurs, chercheuses peuvent avoir aussi, notamment vis-à-vis des questions écologiques en particulier. Moi, je travaille sur les mouvements écologistes, pas sur les problèmes écologiques en eux-mêmes, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une résonance assez forte dans la manière dont j'ai choisi aussi mes sujets de recherche, etc., par rapport à un engagement antérieur.
Effectivement, il y a une petite chose que je remarque que vous avez tous les deux en commun, c'est que c'est vous qui êtes allé vers la politique et pas l'inverse. Parce qu'on pourrait imaginer des politiques qui viennent demander une expertise de la part de chercheurs et que de fil en aiguille, on se retrouve à être assis au banc, au sein du pouvoir. Alors que vous deux, si j'ai bien compris, c'est des convictions personnelles qui vous amènent à aller toquer à la porte du politique, à demander qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut avoir.
C'est-à-dire que je pense que la politique n'est pas un métier. Je pense que c'est une manière de s'intéresser au collectif, aux affaires de la cité, comme vous le disiez en début de cette émission. Et que c'est prendre son rôle, sa responsabilité de citoyen. Être citoyen, c'est être un acteur, devenir un acteur social. Ce n'est pas simplement être là avec une nationalité. Et donc, je trouve qu'effectivement, faire de la politique, c'est profondément, je ne pense pas que ce soit un métier. C'est plutôt un moment de vie où on se dit qu'il faut qu'on dépasse sa sphère de travail habituelle. Et je trouve très intéressant le besoin de conceptualisation que vous avez ressenti, parce que je crois qu'on ne peut pas faire d'action sans théorie, sans compréhension du monde, sans concept. Et toute ma vie, j'ai bénéficié de ça, de la capacité de pouvoir faire des allers-retours entre le moment de la réflexion, de l'analyse, de la recherche de données, d'une théorie, et ensuite de pouvoir faire de la politique. Et j'ai des expériences très précises. Si on ne fait pas ça, dans la politique, on est perdu. On est saisi entre différents courants, de différents groupes d'intérêts. Au fond, on est un peu ballotté. Et si, en revanche, si on sait ce qu'on vient faire là, avec les données et la réflexion qu'on a, alors je crois que... Enfin, c'est en ça, c'est ce que je dis quand je dis que ce n'est pas un métier. Mais malheureusement, ça se perd un peu.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, ça existe sous la forme d'un métier aujourd'hui. C'est plutôt un problème. Il se trouve qu'en France en particulier, on a une professionnalisation de la politique qui fait qu'il y a un rapport au reste de la société qui fait qu'il est quand même un peu particulier par rapport à d'autres pays où justement la politique est beaucoup moins professionnalisée. Je suis français, mais je travaille en Suisse maintenant, où il y a déjà un rapport un peu différent à la politique. Je ne dis pas ça a forcément des meilleurs effets sur tous les plans, mais en tout cas, il y a un rapport déjà entre le champ politique et les citoyens qui est assez différent, mais du coup aussi entre le champ politique et la recherche, qui est aussi différent de ce point de vue-là. Donc voilà. Et sur le fait de pas avoir été cherché par les politiques, je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi des disciplines qu'on fait, ça dépend des positions qu'on a, surtout en sciences humaines et sociales. Comme on a des positionnements épistémologiques qui peuvent être assez différents au sein d'une même discipline, sur un même sujet, on va pas forcément toujours chercher... Il y a des critères, disons, qui nous dépassent aussi, nous, en tant que chercheurs, par rapport à notre pratique. Les politiques peuvent aussi des critères un peu particuliers, des fois, pour nous choisir, proches, plus, on va dire, de leurs intérêts, de ce qu'ils défendent, etc.
Alors, du coup, qu'est-ce qui différencie vraiment fondamentalement entre un chercheur, donc un expert, et justement les professionnels de la politique ? Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer de par cette expertise, qu'est-ce que vous apportez vraiment dans le jeu politique? On pourrait aussi imaginer des experts qui restent dans l'analyse. Et comment est-ce que ça peut être précieux, justement, d'avoir cette place du chercheur?
D'abord, je voudrais peut-être un peu étendre ce concept de politique. Bon, il y a le métier, on est ministre ou on est député, on est maire. Bon, déjà, quand on est maire, on est déjà dans un univers assez différent. Mais la politique, c'est quand même le gouvernement de la cité, c'est le gouvernement de tous. Et c'est le champ en fait, d'action lorsqu'on dépasse juste son activité personnelle. Donc le champ du politique, il faut le voir comme quelque chose où... Ben, la politique, à mon sens, elle est quand même partout. Alors de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins assumée et formulée. Et donc ça, c'est important parce que lorsque des chercheurs s'organisent pour protester contre une organisation de la recherche, ou aujourd'hui, je discutais avec mes étudiants tout à l'heure sur les scientifiques en rébellion, c'est de la politique. Alors, le rapport du professionnel, bon, c'est toute une chaîne, mais je veux dire que c'est peut-être la partie la plus réduite. En revanche, quand on est un citoyen, quand on intervient dans le champ collectif, on fait de la politique et heureusement. Donc, c'est peut-être ça qui manque d'être décrit et expliqué, parce que c'est du coup un continuum qui fait qu'effectivement, à un moment, on fait ça à plein temps. De citoyens actifs s'occupant de causes communes, comme vous l'avez fait sur les questions d'écologie ou d'énergie dans ce cas, à en faire une activité où on fait quelque chose parce qu'on a besoin d'être à ce moment de l'action publique et d'avoir une influence ou un pouvoir de décision. Et donc déjà ça, la politique, c'est plus large. Ensuite, c'est un cheminement intellectuel. Et aussi de responsabilité, de se dire je pense que ça ne va pas comme ça, il faut changer les choses, c'est un besoin de changement. Et je trouve qu'à ce moment-là, encore une fois, vous l'avez noté, hein, c'est par les gens qui viennent chercher des experts, ça c'est autre chose, mais être dans le politique pour des chercheurs, c'est de dire j'analyse une situation, je trouve qu'elle n'est pas la meilleure, on peut faire mieux, il faut faire du changement. Voilà les solutions que je vais apporter. Voilà ce que je veux dire et dénoncer aussi, sur plein de terrains. Et je crois que c'est dans cette activité qu'on se rencontre après, potentiellement, avec ceux dont c'est le métier ou c'est la fonction. Et donc, c'est donc dans un mouvement de prendre le champ de la politique comme un champ qui dépasse ce qu'on appelle traditionnellement le milieu politique.
Alors, j'avais juste envie de réagir sur la première partie de votre réponse et vous poser une question très simple. Est-ce que votre engagement politique vous a éloigné de votre carrière scientifique? Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices, peut-être laisser justement certaines parties de votre travail derrière, ou est-ce que vous avez réussi à combiner les deux?
C'était pas facile, ça a été mal compris par l'institution. C'est une chose de faire de l'analyse, une chose de publier, et puis une chose de dire je crée une ONG parce que je pense que les choses ne vont pas de soi. Oui, c'est pas bien accepté. D'abord parce que ça change aujourd'hui, mais à l'époque, ça fait longtemps, il y avait quand même une séparation très stricte entre le milieu scientifique, le non-engagement, indépendamment des engagements partisans, hein, je parle de prendre la parole dans la société, n'était pas du tout accepté. Et dénoncer des pratiques de monopole, tout ça était, en tout cas dans le domaine qui était le mien, qui était d'ailleurs peu ouvert aux sciences sociales à l'époque. Mais je crois que bon, ça, les choses évidemment ont beaucoup changé, mais il y avait l'idée que le chercheur devait être en retrait, ne pas formuler de recommandations, être neutre par rapport à l'action collective. Donc oui, c'était pas facile et j'ai eu des conflits avec mon institution. Bon, mais c'est assumable.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurence sur notamment cette conception étendue du politique. En fait, moi je la vois aussi dans le fait de, c'est ce que je disais dans mon propre parcours, j'ai choisi de faire de la recherche pour des raisons, on va dire politiques, mais parce qu'en fait je pense que c'est un type de connaissance qui est plus intéressant que d'autres types de connaissances en raison des conditions de sa production, en fait. Le fait d'avoir comme ça un champ collectif avec la validation par les pairs et puis tout un tas de procédures, alors des méthodes et puis ensuite des vérifications, etc. Évidemment, tout ça, c'est essentiel. Et par rapport à d'autres types de savoirs, ça, je trouve que ça permet dans la société d'avoir des savoirs vraiment plus intéressants que savoir produit de manière plus verticale ou en tout cas sans ce caractère, on va dire, démocratique interne. Ça ne veut pas dire que la science est parfaite, son fonctionnement est parfait. Il y a plein de manières d'aborder ça, que ce soit dans son rapport à la société parfois. Bon, voilà, même si, comme vous l'avez dit, la science n'est pas nécessairement hors sol, ben, il y a quand même aussi des fois un écart avec la population qui ne comprend pas forcément certaines orientations, etc. On peut aussi voir la chose dans l'organisation de la recherche elle-même, voilà, les revues prédatrices, etc. Et tout ce système-là qui favorise aussi un certain type de recherche au détriment d'une autre. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un système parfait, mais il y a quand même ce caractère collectif que je trouve vraiment, vraiment très intéressant. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Et pour rebondir sur la question de la neutralité, il y a un peu cette idée souvent que l'engagement politique ou un positionnement idéologique, on va dire, des chercheurs-chercheuses va dégrader le travail qu'ils ou elles vont réaliser. En fait, je ne comprends pas cette position-là parce que tout le monde a une forme de positionnement. Ne pas avoir de positionnement, c'est, on va dire, valider le statu quo, on va dire. Et finalement, en quoi ce serait moins biaisé que d'avoir un engagement en particulier ? Et je pense que ce caractère collectif que j'évoquais, c'est justement ça qui permet d'avoir une recherche vraiment... vraiment intéressante, je veux dire, où il y a du débat, etc. C'est... Peut-être qu'il y a des positions politiques assez diverses en fait, parmi les personnes qui pratiquent la recherche, mais le fait qu'il y ait ce dialogue collectif, ça, on va dire, ça neutralise ces différents positionnements-là. Et si jamais vous faites un travail qui est extrêmement biaisé d'un point de vue idéologique, en fait, vous allez vous faire retoquer dans les revues, vous allez le proposer. Et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux que ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a un positionnement politique que notre travail en fait, va être dégradé. Je pense que ça, c'est une idée qui est assez courante, mais qui est en même temps compréhensible, hein, quand on voit aussi des fois... les contre-vérités qui peuvent être énoncées dans le champ politique, ben forcément, on se dit que toute forme d'engagement politique va dégrader la recherche. Mais en réalité, c'est une formule un petit peu simplificatrice. Des fois, on peut avoir un engagement qui est un petit peu à côté de ses recherches. Donc déjà, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va avoir une formule aussi homogénéisante pour dire toute forme d'engagement dégrade la recherche. Puis en fait, d'un point de vue très concret, en fait, c'est pas parce qu'on a un positionnement précis qu'on ne va pas aller au fond des choses. Enfin, j'ai du mal à comprendre cette idée-là. Moi, par exemple, je travaille sur l'extrême droite. Je suis allé lire des auteurs de l'extrême droite, donc je ne suis pas resté sur une vision, je vais dire, que des personnes avec lesquelles je suis d'accord, etc. Je pense que c'est important, en fait, de combattre un petit peu cette idée-là qu'il y a une opposition stricte entre politique et science.
Et alors, avant de continuer à opposer ou pas la politique et la recherche, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris 93.9. Por castigo, deixe parar. Por algum tempo.
C'était Back in Bahia de Gilberto Gil.
Vous êtes dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Ce soir, discussion autour de la politique avec Laurence Tubiana et Antoine Dubio. Alors avant de passer à la suite de cette discussion et de laisser ma co-animatrice Nahama reprendre un peu le relais, je voulais juste vous demander, Laurence, pourquoi ce choix de musique ?
Ben pour moi, c'est une musique d'un espoir et de résistance. Bon, on le sait, hein, tous ces artistes brésiliens ont travaillé pendant le régime militaire. Ils ont souvent été obligés de s'exiler. Mais il y a quelque chose comme la résistance et le fait que tout ça, cette répression, cette violence, ça n'atteindra pas. Ça ne fera pas baisser les bras. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Bonjour Célène, bonjour Madame Tubiana, bonjour Monsieur Dubio. Dans la première partie de cet épisode consacré au lien entre la recherche et la politique, Laurence Tubiana, économiste et haute fonctionnaire d'État, et Antoine Dubio, doctorant en géographie, nous ont confié les tenants et aboutissants d'un dialogue personnel entre la recherche et la politique. Mais où sont véritablement les chercheurs lorsque les politiques prennent des décisions de façon plus pragmatique ? On a entendu parler des chercheurs scientifiques, lanceurs d'alerte sur les réseaux ou dans les médias, mais aussi dans des commissions très sérieuses de haut sommet pour le climat. Mais soyons honnêtes, ce qu'ils font vraiment, et surtout leur dialogue avec la sphère politique, est un peu flou. Alors voilà, pour éclaircir tout ça, nous allons nous interroger ensemble. Par quel processus des résultats de recherche en sciences physiques et naturelles, humaines et sociales, sont-ils mis en politique ? Autrement dit, comment passe-t-on des savoirs à l'élaboration d'une loi ou d'une décision ? Alors, sans plus attendre, une première question pour vous, Laurence Tubiana. Les chercheurs et chercheuses sont-ils ou sont-elles systématiquement sollicités dans le processus d'élaboration d'une loi ou d'une décision ?
Alors, sûrement non. La réponse est assez simple. Mais parfois, nécessité oblige. Alors, on ne peut pas dire que les politiques sont toujours fondées sur une analyse de données, avec une profondeur, et souvent, ces résultats sont même ignorés. Je pense à des choses sur lesquelles je ne suis pas compétente, mais qui m'ont quand même beaucoup frappée dans mon parcours de vie. Il y a beaucoup de données sur les effets toxiques d'un certain nombre de produits chimiques dans l'environnement, notamment leur accumulation sur longue période. C'est très bien documenté, y compris par exemple sur ces choses qui inquiètent les politiques aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui sont les problèmes de démographie et de fertilité masculine et féminine. Et je trouve ça extraordinairement frappant que les travaux sont vraiment bien documentés et que l'on les ignore par rapport aux politiques qui sont mises en place, décidées, revues, ou sur notamment cet aspect de la diffusion dans l'environnement de produits toxiques. Et donc, parfois, c'est ignoré. Alors, parfois, en revanche, évidemment, dans le domaine qui est aujourd'hui le mien, celui du climat, c'est les scientifiques, avec d'ailleurs le mouvement environnemental, qui ont posé les questions et qui ont obligé les politiques à regarder le problème, qui était difficile à percevoir, parce que le changement climatique, on ne le voit pas, en tout cas, on ne le voyait pas quand ça commençait à devenir une question politique, disons, dans les années 1990. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on observait, ou la situation est évidemment très différente aujourd'hui. Mais il a fallu un long processus de dialogue, de répétition, d'organisation du processus scientifique pour communiquer de façon vraiment formelle avec le champ politique et avec les responsables politiques pour que le climat devienne d'une question scientifique une question collective politique. Et là, c'était un processus vraiment qui a été d'ailleurs poussé, organisé, pensé par les scientifiques eux-mêmes, devant l'impossibilité de communiquer de façon directe et d'être cru, d'être écouté et d'être cru.
Donc on est plutôt ici dans une situation de scientifiques qui produisent du savoir, qui produisent de la connaissance et qui sont en quelque sorte des lanceurs d'alerte qui vont permettre de documenter une situation et les politiques, la sphère politique s'appuie dessus. Mais est-ce qu'il y a des cas où le dialogue est inverse, où ceux qui écrivent les lois, les parlementaires, etc., vont demander une expertise aux scientifiques? Comment est-ce que ça s'opère? Est-ce qu'il y a des scientifiques au gouvernement? Est-ce qu'ils font partie de commissions?
Alors oui, bien sûr. Je corrige, évidemment, là j'ai donné une version vraiment proactive, parce que notamment dans le climat, c'est comme ça que ça s'est passé, ça n'a pas été l'inverse. Mais dans d'autres domaines où, évidemment, devant la complexité des problèmes de toute nature, les politiques peuvent se poser la question. Il y a d'ailleurs des institutions pour ça. On a copié d'ailleurs une grande institution américaine qui est l'Office de la science et de la technologie qui travaille auprès du Sénat et de la Chambre des représentants. On a un office scientifique et technologique en France. Il y a eu des comités créés par les gouvernements. En Angleterre, par exemple, le comité sur le changement climatique, qui est un comité de scientifiques, mais créé par le gouvernement et qui rapporte devant le Parlement. Donc oui, le politique cherche aussi à se documenter, développe une expertise. Il y a aussi de plus en plus des agences. L'agence, par exemple, pour approuver les médicaments, ou bien l'agence, justement, sur les questions d'environnement. Ce sont des agences publiques qui, au fond, sont des agences pour collecter l'expertise et la traduire auprès du milieu politique. Donc, il y a eu, bien sûr, devant la complexité croissante des problèmes, des institutions qui ont été créées. Parfois, il y a des scientifiques dans le gouvernement, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, dans ce cas-là, ils sont plus sensibles à la méthode, aux problèmes de la qualité des données, de leur recueil. Et par ailleurs, il y a aussi des demandes de formation des politiques. Alors, c'est peut-être un peu plus rare, mais quand même des demandes de formation par rapport à certains problèmes. Dernier cas, les députés entendent des experts ou des chercheurs en commission, ce qu'on appelle les auditions. C'est courant. Et lorsqu'un problème se passe, normalement, enfin, si tout se passe bien, il y a cette interrogation. Donc, il y a plein de procédures tout de même. Après, est-ce qu'on retrouve les aspects de ces données, de ces travaux de recherche complètement dans la traduction logique de la loi? Je dirais pas. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple très frappant de la dissonance cognitive entre ce qu'on sait sur les effets toxiques de produits chimiques dans l'environnement et les lois qui les régulent.
Et cet exemple du climat, c'est un exemple qui est assez frappant pour expliquer ça, effectivement, et dont on entend beaucoup parler, nous, citoyens. Est-ce que, Antoine Dubiot, vous qui travaillez aussi sur ce domaine-là, est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité de ce genre de thème où les chercheurs sont plutôt positionnés en tant que producteurs de savoir, lanceurs d'alerte, pour donner des données concrètes avec le GIEC, etc., aux politiques, à la sphère politique?
Moi déjà, je ne parlerai pas de lanceur d'alerte pour les scientifiques, okay. Dans le sens où c'est en sociologie, c'est quand même un concept assez précis. Mmh. C'est plutôt des acteurs isolés au sein d'institutions qui, justement, ont des pratiques délétères, etc. Je pense que, ou alors on pourrait dire que l'ensemble des scientifiques sont des lanceurs d'alerte. Donc voilà, mais je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui traduit quand même un rapport à la science qui, je pense, dans la société, pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y a un rapport qui est assez tyrannique à la science. Je ne dis pas que la science elle-même l'est, mais la vision qui peut être diffusée dans la société, en fait, c'est soit la science, soit elle dit la vérité, soit en fait on l'ignore. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence, sur le fait qu'il y a sur des sujets, en fait, toute la production scientifique est complètement ignorée. En fait, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une variabilité comme ça selon les sujets et essayer d'interroger cette variabilité-là. C'est-à-dire que soit on va revendiquer, les politiques qui vont... peuvent revendiquer, des politiques basées sur la science, ils vont le faire sur certains sujets, et puis sur d'autres, ça ne sera même pas une question, ça ne sera même pas interrogé, le fait qu'il y ait des données qui puissent être faites sur ces sujets-là. Il se trouve que, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais en sciences humaines et sociales, il y a quand même tout un tas de recherches sur les questions sociales, économiques, de discrimination, etc., qui ne sont pas du tout prises en compte, ou alors des fois, ça peut être certains types de travaux qui sont pris en compte et pas d'autres. Enfin, il y a toute une économie de la manière dont les travaux de recherche sont sélectionnés, pourquoi certains plutôt que d'autres, des choses qui sont un petit peu obscures. Mais là, j'ai plutôt parlé des discours, en fait. Moi, je ne suis pas compétent pour parler de comment, en fait, les résultats en plus ensuite se traduisent vraiment dans les lois, mais rien que dans les discours, en fait, on voit déjà une forme un peu sélective, on va dire, de scientisme, de soit, en fait, on va revendiquer de s'ancrer sur la science, soit non. Et je trouve que, par exemple, pendant le Covid, on a eu un exemple très concret de non, en fait, où il y a tout un tas de responsables politiques qui ont défendu des thèses complètement anti-scientifiques, alors qu'on était dans un moment où on était plutôt dans une espèce de défense d'un certain nombre de travaux scientifiques qui étaient en train d'être produits à toute vitesse sur les vaccins, etc. Et en même temps, il y a eu tout un tas de positionnements politiques qui sont allés contre ça. Et je pense que c'est un bon exemple pour voir cette ambivalence-là du rapport à la science d'une partie du champ politique.
Et justement, concernant cette forme d'aveuglement, de mise sous silence de certains résultats de recherche par celui de la sphère politique, j'ai invité Célène à revenir au micro pour nous parler de ce sujet.
Alors effectivement, Nahama, je vous propose de maintenant faire un petit détour en 2022 à deux pas du Palais Bourbon pour discuter un petit peu plus de ce qui se passe avec le législatif.
C'est une première mondiale. Au lendemain des législatives, 40 scientifiques de renom se sont mis à disposition des députés, nouvellement élus, pendant 3 jours pour les former sur les enjeux climat et biodiversité à quelques mètres de l'Assemblée nationale. L'objectif annoncé, transmettre une parole factuelle et impartiale sur l'évolution du climat et du vivant à tous les parlementaires dans une démarche totalement apartisane. Une initiative lancée par Christophe Cassou, auteur du GIEC, et Mathieu Orphelin, ancien député écologiste de Maine-et-Loire.
Le scientifique, en fait, a deux rôles. Il a évidemment le rôle de produire la connaissance, mais il a aussi le rôle de partager cette connaissance-là. Et on s'est bien rendu compte que les rapports du GIEC ou les rapports de l'IPBES, sont utiles s'ils sont compris, s'ils sont intégrés. Toutes les lois doivent être en fait compatibles avec donc cette diminution des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique et pour limiter les risques, puisque chaque fraction de degré additionnel compte.
Cette initiative des chercheurs ne vient pas de nulle part. En effet, et malheureusement, les parlementaires ne sont pas toujours encore parfaitement au parfum de certains aspects scientifiques majeurs de notre siècle. Comme le précise la journaliste de Blast.
Et l'enjeu est immense. Selon une étude de l'ADEME de 2020, pour 34% des parlementaires, le réchauffement climatique dû à l'augmentation de l'effet de serre est une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Et un député sur cinq pense qu'il s'agit uniquement d'un phénomène naturel qui a toujours existé. En bref, qu'il n'est pas dû aux activités humaines. Il y a donc du boulot.
Alors, à la lecture de ces chiffres, on peut légitimement se poser la question suivante. Comment se fait-il que des résultats avérés, bien établis, des travaux de recherche ne rentrent pas dans l'hémicycle et dans l'organisme étatique plus en général?
Effectivement, Célène, tu nous présentes le constat d'un échec. L'implication des chercheurs et chercheuses dans la mise en place des politiques publiques peut connaître des blocages. Mais d'où viennent-ils? On en a déjà un peu parlé. Mais est-ce que la nature même des problèmes à adresser pour des thèmes comme le climat, notamment pour l'adaptation, la protection de la biodiversité ou des ressources, c'est insoluble, c'est d'immense ampleur, avec des incertitudes qui sont multiples, différentes échelles de temps et d'action et des options de solutions imparfaites? Elles semblent être autant de freins pour des politiques. Mais elles semblent être ces freins-là. Est-ce que ces freins, ils sont réels? Ou est-ce qu'ils sont imaginaires et bien commodes pour la sphère politique?
D'abord, je voudrais revenir sur ce épisode qu'on a entendu. Christophe, est un type formidable parce qu'il fait beaucoup de communication scientifique, justement, en dehors de son propre travail. C'était très impressionnant parce que cette petite tente que à plusieurs associations, on avait avec eux monté à côté de l'Assemblée pour le premier jour. Il y a très peu de chercheurs qui sont venus, de députés qui sont venus. Et puis, les journalistes sont venus. Et là, les députés sont venus. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de comprendre le problème. C'est le problème de leur communication et de la visibilité ou de leur légitimité, mais qui est lié à leur image plutôt qu'à leur pratique. Donc ça, c'est une vraie question. Ça nous a interrogés, puisque ma fondation a participé au soutien de cette opération qui était vraiment intéressante. Mais c'est vrai que le nombre de députés qui sont venus a été très, très petit, en tout cas avant que la presse ne vienne. Donc, problème. Peut-être pas besoin de savoir. Ensuite, oui, il y a quelque chose qui frappe dans l'ampleur du problème et donc la compétence possible pour y répondre. En réalité, il y a peut-être cette conviction qu'il faudrait partager avec les responsables politiques. C'est que de toute façon, tout ce qu'on peut faire est bien, même si on ne peut pas tout régler. On ne peut pas tout régler en France, on ne peut pas tout régler depuis Paris. Enfin, plein de choses qui sont un peu évidentes. Mais il y a l'idée que la mise en action, elle est aussi importante que le résultat. Et ça, peut-être pour des politiques, c'est très difficile, parce que comment est-ce qu'on va montrer qu'on a eu un impact? Cela dit, quand même, il y a tellement de solutions qui sont abordables aujourd'hui, qui sont connues, qui ne devraient pas faire l'objet d'hésitations aussi importantes. Et là, c'est peut-être plutôt, non pas le rapport de l'impossibilité ou de l'ampleur du problème, que plutôt le pas de temps. les injonctions sur le court terme, mais surtout la difficulté à comprendre les rapports de force qui les entourent, les pressions, et le fait que tout de même, les gens les plus organisés ont plus d'impact sur les députés ou les responsables politiques en général que les citoyens en général ou que la société dans son ensemble. Donc ça complique sans doute la prise de décision. Cela dit, il y a des députés très engagés sur le climat. Ils parlent, ils s'engagent, ils défendent des vues. On a des vraiment aujourd'hui des députés français en particulier qui ont été vraiment à l'origine d'élaboration des politiques publiques, qui s'intéressent aux travaux du Haut Conseil pour le climat, par exemple, qui le citent, qui le lisent. Donc il y a aussi une acculturation et une mobilisation qui est en tout cas pour certains très forte, qui se combine aujourd'hui, me semble-t-il, avec le besoin d'intégrer les questions sociales, les questions de justice à ce programme environnemental qui peut-être a fait défaut il y a quelque temps. Donc on est en pleine transformation de la prise en compte du politique, et peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est la peur du retour en arrière, où selon les modes d'information, les perceptions du public ou surtout la polarisation du débat peut faire reculer des politiques qui étaient aujourd'hui précédemment plutôt sur le consensus, qu'il fallait faire quelque chose.
Antoine Dubiot.
Je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit sur le fait qu'en fait les freins, ils ne sont pas vraiment du côté de la science et de l'ampleur des problèmes, de leur complexité, etc. Évidemment que voilà, on a aussi une caractérisation, si on prend les problèmes écologiques au sens large, qu'ils soient climatiques, biodiversitaires, etc. Évidemment qu'on a des problèmes qui sont de plus en plus complexes tels qu'on les perçoit, mais ce n'est pas spécialement de ce côté-là qu'il y a vraiment des freins. C'est plutôt du côté du politique, et je relance tout à fait le fait que c'est aussi les rapports de force au sein de ce champ qui sont importants. J'ai rebondi un petit peu sur l'extrait aussi. Les chiffres, les petits chiffres qui sont présentés par Blast, ils évoquent un peu, on va dire, la conscience climatique des députés. Et je ne pense pas en fait que ce soit forcément la bonne manière de cadrer le problème. Pour moi, ce n'est pas est-ce qu'ils croient ou pas. En fait, s'ils y croient pas, c'est pas simplement qu'ils n'adhèrent pas à la science, c'est aussi qu'ils sont pris dans certains intérêts particuliers qui font que, en fait, ils s'opposent au savoir scientifique produit sur le climat. J'ai pas connaissance du sondage exact, mais voilà, c'est assez documenté qu'on a quand même plutôt les sphères politiques d'extrême droite qui sont décrites comme climato-sceptiques. Et il se trouve que dans les travaux qui sont faits un peu sur le rapport à l'écologie de l'extrême droite, en fait, on a un peu abandonné le terme de climato-scepticisme parce qu'il se focalise trop sur cette question de la conscience comme quelque chose de dématérialisé, qui n'a pas de rapport avec la position des acteurs. On préfère plutôt un autre concept, qui est celui de carbofascisme. Le terme de carbofascisme, je ne vais pas entrer trop dans le détail de la discussion, mais en fait, je le trouve intéressant parce qu'il refocalise l'attention sur les intérêts matériels qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que, je vais prendre un exemple non français, pourquoi est-ce que Donald Trump défend le fait de... récemment élu, il a dit qu'il allait aller forer partout, tout ce qui était possible, tous les hydrocarbures possibles. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, c'est pas simplement parce qu'il ne croit pas à la science, c'est aussi parce qu'il y a des intérêts économiques très puissants derrière, et idéologiques aussi, qui font qu'il y a une position qui est hostile à la recherche sur les questions climatiques. C'est documenté depuis assez longtemps, en fait, sur les questions climatiques en particulier. Mais en fait, on pourrait faire le même travail sur tout un tas d'autres sujets. Il se trouve que c'est fait sur le climat parce que c'est un exemple assez paradigmatique. Ça a été aussi facile de documenter qu'il y a des grandes entreprises pétrolières qui ont entravé la recherche sur les questions climatiques. Mais en fait, probablement qu'il y a ce type d'obstruction, en fait, avec très intéressé, qui se produit sur tout un tas de sujets.
Constat d'échec du dialogue, il est fait, justement, vous l'avez un peu évoqué, parce que les échelles de temps nécessaires pour régler les problèmes climatiques et le nombre d'acteurs qui rentrent en jeu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aussi les questions d'échelle de temps, mais aussi au niveau géographique. Si on parle de l'ONU, de la France, des collectivités locales, on ne se place pas du tout à la même échelle. Et moi, je voudrais savoir... quelle est la différence d'implication et d'écoute des scientifiques et des chercheurs sur ces différentes échelles géographiques?
Je crois que ça... Bon, d'abord, ça dépend des contextes. Hein, c'est vraiment extrêmement divers. Je prends un exemple de longue date. Hein, la région Nord-Pas-de-Calais s'est fait un plan climat, je pense, dans les années 95. Donc, il y a longtemps. Donc, ça dépend des élus. Donc, c'est assez divers. Je dirais qu'aujourd'hui, quand même, quand je regarde en France, mais si on peut prendre des exemples ailleurs, on a fait quand même énormément de... Il y a eu énormément d'évolutions. Il n'y a pas de président de région en France aujourd'hui qui ignore, qui doit faire des plans de transport et qui doit essayer quand même de minimiser l'usage de la voiture. Alors, ils y croient plus ou moins. Il y a des conflits, il y a des conflits d'intérêts entre les gens qui bâtissent les routes et puis bon, ceux qui disent qu'il faudrait plutôt réduire les besoins de mobilité. Mais c'est un domaine maintenant, en tout cas à certains niveaux des collectivités locales, donc assez proche du terrain, qui est quand même répandu. Et je crois qu'il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de région en France qui n'a pas de plan climat, parce que c'est maintenant devenu une obligation. Ça descend quand même souvent à des niveaux plus petits, des villes. On le voit d'ailleurs avec les contradictions que ça peut poser. Des villes qui instaurent des zones de faible émission, ça pose d'autres problèmes parce qu'on renvoie la pollution d'une certaine manière sur les périphéries urbaines. Mais donc, on est dans un monde qui est très différent de celui de, y compris de 2015. Vraiment très différent. Quand vous prenez le train, on vous dit ben, bravo, vous avez pris un transport qui émet le moins de carbone. Donc, on a complètement changé notre rapport à cette science du changement climatique. Les impacts du changement climatique aujourd'hui font que localement, on voit des élus, des municipalités prendre des mesures qui sont tout à fait rationnelles. Et donc, elles s'appuient sur qu'est-ce qui se passe avec les cours d'eau. Donc, je trouve ça que ça a énormément évolué. Ce qui me paraît être le plus difficile, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire quand même les intérêts organisés sur un certain nombre de secteurs économiques et industriels qui freinent là où il faudrait quand même avancer beaucoup plus vite. Prenez le secteur automobile aujourd'hui. Bon, évidemment, le secteur européen a raté la marche par rapport évidemment à la dynamique de la production d'automobiles électriques chinoises. Ils étaient au courant, puisqu'ils étaient tous investis en Chine depuis longtemps. Ils n'ont pas voulu le faire. Les gouvernements hésitent. Mais on n'est plus dans le même monde. La question, c'est qu'on a commencé très tard et que c'est lent. Mais on n'est plus dans le même monde. Donc, je crois que ça, il y a eu quand même énormément de choses qui ont été intégrées dans la pratique. Et je crois qu'il n'y a aucun élu qui ne sait pas qu'il faut agir sur le transport, sur l'aménagement du territoire, sur les bâtiments. Ça devient du sens commun quand même.
Et avant de continuer cette discussion, je vous propose une nouvelle petite pause musicale. Restez avec nous sur Radio Campus Paris 93.9. On se retrouve juste après.
Vous venez d'écouter « Our Side Has to Win » de Godspeed You, Black Emperor.
Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
De retour sur Radio Campus Paris, vous êtes dans Fréquence Recherche avec Laurence Toubiana et Antoine Dubiot pour parler recherche et politique jusqu'à 21h. Mais avant de continuer cette discussion, la même question qu'à Madame Toubiana. Pourquoi avez-vous choisi cette musique ?
Parce que Godspeed You Black Emperor, c'est un groupe très engagé. Et on a fait une émission sur les rapports entre recherche et politique. Et donc, c'est quelque chose qui me semblait important. Je trouve que ça fait un peu écho à ce que disait Laurence pour justifier son choix musical aussi. C'est un groupe vraiment qui défend une forme de résistance face à l'oppression, qui défend l'émancipation sociale. Alors, ce n'est pas un groupe qui a des paroles dans ses textes, donc c'est pour ça qu'on a entendu juste un instrumental. Mais c'est un groupe qui, dans sa communication, aussi dans la manière dont il nomme les albums, etc., insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Voilà, donc c'était un choix important pour moi. Il se trouve que le titre s'appelle « Our side has to win », donc « Notre camp doit gagner ». Donc, c'est un message, évidemment, très politique, assez clair. Et je renvoie un peu à ce qu'on disait, voilà, la politique comme champ avec des rapports de force importants.
Donc pour continuer cette discussion sur recherche et politique, il m'a semblé qu'on ne pouvait pas aborder la mise en politique de savoir scientifique sans aborder la question de la mise en récit. Les langages de la politique, de la législation et de la recherche ne sont pas les mêmes. Un épisode entier, voire deux, voire dix, voire dix thèses pourrait y être consacré. Mais je voudrais toucher du doigt la façon dont la sphère politique raconte les savoirs scientifiques à des fins politiques. Peut-on, par exemple, avoir le sentiment, en tant que scientifique, d'avoir été utilisé par la sphère politique à des fins de représentation, de légitimation d'un discours politicien ?
Bien sûr, c'est compliqué. Quand on rentre dans une communication qui n'est pas scientifique avec ses règles, sa méthodologie, son rythme, enfin, et qu'on est dans la parole publique, bien sûr que ces propos peuvent être déformés. Ils le sont. En particulier dans ce débat sur le climat, bon, moi, plutôt dans le sens de l'économie et de la science politique, puisque je ne suis pas physicienne, mais j'ai vu tellement de mes collègues complètement démunis devant la mauvaise foi politique, disant que puisqu'il y a incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas, argument classique, et beaucoup d'autres. Et de fait, du coup, de se dire qu'ils n'avaient pas leur place dans cet échange. Et donc, c'est très facile de déstabiliser quand même la parole scientifique en mettant en doute à partir des présupposés de ce qu'est une bonne recherche, c'est-à-dire le doute, la contestation possible des résultats, la réflexion sur la méthode. Et au fond, c'est des trucs de politique assez simples que Naomi Oreskes a très bien décrit dans Les marchands du doute. Il y a eu plusieurs films depuis pour montrer que c'est des trucs que les politiques savent faire pour déstabiliser. Alors, j'étais relativement peu exposée, plein de raisons, mais c'est quand même quelque chose qui, en tout cas, pour les physiciens du climat, a été épouvantable hein, pendant beaucoup, beaucoup d'années. Je crois que ça leur arrive moins aujourd'hui. Mais, par exemple, ma fondation exerce des sessions de formation pour les chercheurs pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu, parce que c'est en fait une question de technique. Et que bien sûr que c'est pas cela auquel ils sont, c'est pas leur travail. Et je trouve ça assez choquant que le discours politique est fait de ces artifices aussi de langage, d'argumentation, soit retourné comme ça contre des personnes dont c'est pas le métier et qui parlent en général hein, avec une grande honnêteté. Et c'est vrai, on l'a vu même dans des institutions scientifiques sérieuses. Je pense à l'Académie des sciences françaises qui a mis des années à admettre le fait du changement climatique pour des raisons en fait institutionnelles et politiques très largement.
Antoine Dubiot, sur cette mauvaise compréhension voulue ou non voulue du doute, de l'incertitude caractéristique de la recherche.
Je pense que c'est intéressant déjà de complexifier un tout petit peu peut-être quelque chose qu'on a un peu pris pour acquis dans notre discussion, qui est le fait qu'on a beaucoup parlé des gouvernants, gouvernantes. Mais en fait, il faut aussi voir comment l'opposition parfois peut mobiliser ou non, certains travaux, etc. Moi, je travaille sur un sujet assez polémique, celui de l'extrême droite. Donc forcément, en fait, y a des partis politiques que ça intéresse d'avoir des connaissances sur ces travaux-là. En fait, c'est le cas pour tout. En sciences humaines et sociales, on a beaucoup de sujets comme ça, assez polémiques, on va dire, socialement, dans la manière dont ils sont construits, parce qu'ils concernent directement l'organisation de notre société. Et tout le monde a un peu un avis dessus. Donc, même sans être scientifique, c'est un peu différent peut-être que ce qu'on peut voir en sciences naturelles, où on a des processus qui sont tellement complexes qu'ils sont beaucoup plus obscurs, en fait, pour tout à chacun. Du coup, c'est intéressant de voir comment, en fait, les mêmes travaux au sein du champ politique qui sont appropriés de manière très différenciée. Ça, c'est quelque chose qui me semble important à mettre aussi en évidence sur le fait que voilà, c'est le souci du dialogue, il est quand même lié aussi à certaines rigidités, on va dire, du champ politique lui-même, des rapports de force qui le structurent.
Pas vraiment intrinsèquement à cette mauvaise compréhension de ce que c'est la recherche.
ça peut être une donnée. Enfin, je pense que ce que Laurence a expliqué est très juste. Enfin, moi, je n'ai pas grand-chose à commenter dessus. Je n'ai pas cette expérience-là. Mais rien qu'à ma petite échelle de travaux sur l'extrême droite, souvent, on m'a mobilisé de manière un petit peu... Voilà, on va inscrire ça dans une lutte globale et pas forcément toujours hyper précis sur la manière dont les travaux sont mobilisés. Et moi, ça a été une source de frustration plusieurs fois.
Du coup, c'était des travaux en tant que chercheur, pas que auteur militant à ce moment-là.
Ouais, ça pouvait être des travaux de recherche. Enfin, ça s'inscrit dans mes travaux de recherche. Ce qui est intéressant, c'est que quand on doit dialoguer avec des politiques, par exemple sur une table ronde, en fait, c'est des dialogues qui sont compliqués. Parce qu'on n'a pas le même registre, on ne parle pas à partir des mêmes référentiels, etc. Même si des fois, on peut défendre des positions finalement assez proches, c'est en tout cas des dispositifs qui font que la parole scientifique est compliquée juste à exprimer pleinement dans sa finesse, etc. Parce que voilà, on a des intérêts assez différents à parler dans ces cadres-là.
Et je crois qu'il y a un office dont vous aviez parlé tout à l'heure, Madame Toubiana, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ils sont rédigés, il me semble, par des politiques, mais main dans la main avec des scientifiques qui sont pris en rôle de consultation. C'est ça, c'est assez récent.
Oui, il y a une présidence par les députés. Alors, je ne sais plus qui est le président aujourd'hui ou les co-présidents. Mais l'idée, c'est tout de même de pouvoir mobiliser de l'expertise scientifique. Et donc, il y a à la fois des gens qui travaillent dedans, mais qui sont chargés plutôt de collecter les travaux, ce qui a été publié, d'essayer d'en faire une synthèse. Et puis, lorsqu'il y a une question à traiter, de ramener soit par des auditions, soit par des travaux de lecture et de synthèse des travaux, les éléments nécessaires. Donc, encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le programme de travail, mais c'est quand même un outil tout à fait important que ça existe, en tout cas.
Nous approchons de la fin de cette émission. J'aimerais vous poser une question de nature un peu différente. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait poser, par exemple, le thème du climat comme l'une des conditions principales de l'action publique, beaucoup plus qu'elle ne l'est faite aujourd'hui?
Tout dépend ce qu'on veut dire par condition principale. Je pense que il y a différentes manières de cadrer la chose, de la cadrer d'un point de vue législatif, etc. Par exemple, il y a eu une proposition qui a été portée par des collectifs comme Extinction Rebellion, qui était l'état d'urgence climatique. L'état d'urgence climatique, c'est quelque chose qui me semble, c'était assez, on va dire, peu fondé d'un point de vue la proposition était assez peu développée. Quel est le contenu exactement de cet état d'urgence? On a vu que sur d'autres questions, l'état d'urgence, c'était quand même aussi une atteinte à l'état de droit. C'est quelque chose aussi assez documenté. En fait, qu'est-ce qu'un état d'urgence climatique? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles prérogatives l'État pourrait avoir, etc. On a assez peu de précisions sur ça. Donc, par exemple, si c'est ça la forme que ça devrait prendre, je suis assez partagé. Il y a assez peu d'élaboration de cette idée d'état d'urgence climatique qui ont été faites. Parce que, en fait, c'est la formule état d'urgence qui est elle-même un peu ambiguë et instable. Il y a un chercheur qui s'appelle Marc Alizard qui a proposé qu'il y ait, par exemple, un premier ministre bis qui ait un droit de veto climatique, on va dire, sur tous les projets de loi qui seraient menés. Je pense qu'on peut quand même s'interroger sur le caractère démocratique d'avoir un premier ministre bis qui peut avoir un droit de veto sur n'importe quoi, comment on choisit cette personne-là, etc. C'est des modèles qui ne sont pas forcément en faveur d'une conception plutôt démocratique des sciences. Après, le fait de évidemment mettre le climat, et moi je dirais plus largement l'écologie, parce qu'on réduit souvent les questions écologiques à la seule question climatique, mais il y a plein d'autres facettes, les mettre au cœur de notre réflexion politique actuelle, évidemment que ça me semble important. Après, dans quelle modalité, ça reste encore à voir.
J'ai parlé de la question climatique et de la question écologique, mais en fait c'était pour englober une question qui était aussi plus générale, qui est... J'ai parlé de cette question parce que ça semble être la question la plus urgente pour les scientifiques aujourd'hui, qui sont assez unanimes pour réfléchir la société à partir de cette question. Et donc, pourquoi ce n'est pas suivi par les politiques? Est-ce qu'on pourrait envisager un monde où ce sont les scientifiques qui donnent le « là » des décisions politiques?
Moi, je ne serais pas trop à l'aise dans un monde où les scientifiques tiendraient la barre au nom de quoi? D'abord, il y a plein de disciplines. Est-ce que les vulcanologues auraient raison par rapport, je sais pas, aux gens qui travaillent sur les plantes? Je pense qu'il faut reconnaître que on a des domaines d'action différents, il y a des formes de responsabilité différentes. Je pense que les chercheurs, ils sont responsables vis-à-vis de leur communauté, de la qualité de leur travail, de ce travail de réflexion par les pairs, de leur honnêteté sur ce qu'ils produisent comme données. Et c'est ça, je dirais, leur responsabilité. Et ils ont une responsabilité sociale de travailler au bien commun. Bon, la responsabilité des politiques, elle est par rapport à ceux qui les ont désignés, qui ont délégué leur souveraineté individuelle à eux. Et donc, c'est ce contrôle-là. C'est une vision un peu totalitaire, parce qu'au fond, regardez les débats qu'on a eus sur le vaccin du Covid. Qui a raison ? Bon, je n'ai pas de doute sur l'utilité des vaccins. Mais on peut imaginer, regardez ce qui se passe aux États-Unis, on peut avoir un scientifique, ou en tout cas qui se présente comme tel, qui, au nom de sa science, va peut-être interdire ou diminuer énormément l'action de prévention sur plein de maladies. Et donc, il y a un côté d'autoritarisme que parce qu'on aurait raison, qui serait terrible. Enfin, le Covid a montré très bien quand même les risques. Et donc, il faut des contrepoids. Et la politique, c'est les contrepoids. Voilà, donc je ne serais pas du tout à l'aise avec un gouvernement des scientifiques.
Antoine Dubio, sur cette question tout à fait provocatrice, c'est votre moment de proposer votre modèle de société.
Modèle de société, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, je trouve ça intéressant ce que dit Laurence sur ce risque autoritaire, on va dire, d'un modèle qu'on pourrait dire scientiste. C'est un peu le terme qui est mobilisé, on va dire, par les gens qui critiquent ça, notamment chez les écologistes. En même temps, l'idée, c'est évidemment de... c'est quand même des savoirs qui sont importants. Enfin, depuis le début de l'échange, j'ai plutôt défendu ça, évidemment. Donc, comment on essaye de penser une forme de démocratisation de ces savoirs-là pour qu'ils puissent être placés au cœur sans être imposés ? Et je pense qu'il y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place, mais rien que déjà dans la conception qu'on a de la science, sortir un petit peu justement de ce rapport tyrannique à la science. La science, soit elle impose, elle dicte une politique, soit en fait on la repousse. En fait, il y a déjà toute une acculturation dans la société à faire sur la science, c'est un champ. Il y a des acteurs qui n'ont pas tous les mêmes positions, parfois des contradictions entre disciplines, au sein des disciplines, etc. Donc déjà, réussir à complexifier tout ça. Et puis du côté des scientifiques eux-mêmes, il y a quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Alors évidemment, je suis un jeune chercheur et je ne suis pas là pour donner des leçons à des personnes qui ont une expérience 20 fois plus grande que moi dans le champ scientifique. Mais je pense que s'engager politiquement, non pas en tant que scientifique, mais aussi en fait en tant que membre de la société, tout simplement, c'est quelque chose d'important aussi. On pense souvent que les scientifiques, ils devraient s'engager en tant que scientifiques. Et donc, je trouve que ça reproduit beaucoup cette idée que, ils vont dicter une politique. Alors que finalement, en fait, concrètement, les scientifiques défendent rarement une politique qui précise. Ils défendent la prise en compte d'un enjeu et puis ils ont bien conscience qu'ensuite, il y a des rapports de force qui vont faire que cet enjeu, il va être traité différemment par les forces politiques en présence, etc. Mais je pense que rien que chez les scientifiques, un petit changement de positionnement dans ce type d'engagement, c'est quelque chose qui me semblerait assez salutaire, qui est déjà plutôt en train d'être fait, je trouve, dans les mouvements écologistes.
Et sur ces quelques mots, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Alors, avant de clôturer cette discussion vraiment passionnante, j'aimerais vous poser une autre question traditionnelle de la fin. Si vous n'aviez pas fait cette carrière dans la recherche et dans la politique, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Je crois que j'aurais pas fait autre chose. Et je crois que je me serais peut-être investie sur d'autres causes qui sont importantes. Peut-être pas celle de l'environnement, mais d'autres. Mais je ne me vois pas autrement qu'engagée dans la société. Non, j'imagine pas.
Je vais revenir sur ce que j'ai dit au tout début. Comme j'ai commencé dans l'ingénierie, dans l'énergie, je pense que si je ne m'étais pas posé un peu les questions politiques qui ont fait que je me suis réorienté plutôt vers les sciences sociales, probablement que je serais toujours à peu près là-dedans. Mais il se trouve que j'étais quand même déjà un peu orienté vers la recherche à ce moment-là. Donc, si on revient plus en arrière, j'avoue que j'ai du mal à déterminer. Ça fait trop longtemps que je m'intéresse à la recherche dans plein de ses facettes.
Sur ces mots, merci infiniment à tous les deux pour cette discussion réellement passionnante, en tout cas qui nous a passionnés, Naama et moi-même, qui nous a vraiment questionnés en la préparant sur notre rôle à nous de jeunes doctorantes, vulgarisatrices et citoyennes. Alors, un grand merci du coup à Naama pour la co-animation, à Lucille et à Eléa Coche à la technique, à Pascal Beauboeuf pour les discussions lors de la préparation de l'émission et à l'École Normale Supérieure pour leur accueil sur le campus Jourdan, ici dans le 14e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver cet épisode sous la forme d'un podcast dès demain sur le site de la radio, Radio Campus Paris, et sur Spotify ou enfin sur Apple Podcasts. On se retrouve dans 4 semaines sur le 93.9. À très vite.